Voilà donc le point majeur auquel nous avions abouti l'autre fois. La mécanique de Hobbes étant une mécanique qui, au fond, instaure une espèce de société pacifique, mais une société totalement froide, qui ne règle pas la question du désir, du chaud et de l'inévitable place de l'affect dans les relations humaines. Et là aussi, on peut faire le constat que depuis quelques années, mais ça s'accentue d'année en année, dans la société française par exemple, mais on retrouve ça ailleurs, ce qu'on appelle le communautarisme monte en puissance sur des bases d'appartenance qui peuvent être très variées, religieuses, mais pas seulement. Et le communautarisme, c'est précisément le symptôme qu'une société hobbésienne ne règle pas la question d'un lien communautaire, d'un désir d'affect dans les relations humaines, dans le lien social. Voilà, donc nous en étions là et nous avons attaqué Rousseau. Donc Rousseau, qui est passionnant sur ces questions-là, parce que à la fois il est incontestablement inspiré par Hobbes, continuateur de Hobbes sur plein des aspects, et je pense en particulier à un de ses livres majeurs qui est Le Contrat social. Il met en place un dispositif qui n'est pas si éloigné que ça que le dispositif du Léviathan hobbésien, et en tout cas le fort point commun, c'est la question du contrat. Rousseau, d'ailleurs, donnant à ce livre le nom de contrat, le contrat social. Donc Rousseau est à la fois le continuateur, mais en même temps, et c'est ça qui est passionnant par Rousseau, même si ça induit chez lui des contradictions parfois difficilement tenables, Rousseau en même temps opère une rupture et un déplacement de perspective par rapport à Hobbes. Alors, quels sont ces déplacements? Rousseau, dans toute son œuvre, met en marche un mouvement de pensée qui est assez similaire à celui de Hobbes, d'ailleurs. C'est-à-dire que, d'abord, il établit le constat de là où en est la société humaine, là où en sont les hommes qui vivent en société. Et comme Hobbes, ce constat est sombre et négatif. Mais il est complètement inversé par rapport à celui de Hobbes, dans l'éclairage qu'il donne. Je rappelle, pour Hobbes, l'état naturel, l'état de droit naturel, c'est l'état où l'homme ne poursuit que son désir de liberté, et dans l'expansion infinie et illimitée de sa propre liberté, de sa propre puissance, et ça aboutit à la guerre de tous contre tous. Parce que, au fond, pour Hobbes, l'homme, au départ, naturellement, est un loup pour l'autre homme. L'homme est un loup pour l'homme. Rousseau renverse la perspective et l'éclairage. Son constat est effectivement nourri d'une forte charge dénonciatrice de l'état d'une société qui est faite d'oppression et de domination et d'injustice. Son constat et sa dénonciation, c'est que la société est injuste parce que guidée par l'oppression, la domination, la soumission obligée des plus faibles aux plus forts, que ce soit d'un point de vue économique, physique, tous les points de vue. Et Rousseau, à travers ce constat, prend très résolument la défense des faibles et des opprimés. Mais son éclairage ouvre d'autres perspectives par rapport à celle de Hobbes, au sens où il considère que l'homme à l'état naturel est bon, n'est pas sous l'empire du mal, n'est pas donc enclin à faire du mal. Là aussi, on pourrait rentrer dans les contradictions et la complexité et la subtilité en même temps passionnante de Rousseau. On a réduit ça au mythe du bon sauvage que les ethnologues après ont pu railler. C'est pas cela que dit Rousseau du tout. Il n'est pas idiot, même si l'ethnologie et l'anthropologie est peu développée comme science à l'époque de Rousseau. Il n'est pas idiot au point de croire naïvement qu'il y aurait eu un âge d'or où les hommes sauvages étaient bons. En fait, ce qu'il dit plus précisément, c'est que l'homme à l'état naturel vit dans un état de dispersion et n'est pas organisé en société et qu'il est en deçà de toute morale. Il est en deçà des catégories du bien et du mal, par exemple. Ce qui veut dire que pour Rousseau, l'homme naturel ne cherche pas à faire le mal, mais il ne cherche pas non plus à faire le bien, mais il ne cherche pas à nuire à l'autre homme. Il reprendra la même chose du point de vue de l'état premier de l'âge d'un individu, qui est l'enfance. Il fait le parallèle, c'est intéressant, entre un point de vue méthodologique de type ethnologique, entre guillemets, et je pense notamment à l'Émile sur lequel on va revenir, qui est son traité d'éducation, où il part de développement à travers les âges de l'individu, depuis la naissance, l'enfance, l'adolescence. Il s'intéresse à l'adolescence, entre parenthèses, Rousseau est probablement le premier qui invente la notion qui est tellement répandue de nos jours d'adolescent, qui est un statut social, la définition d'une identité de l'individu qui n'existait absolument pas jusqu'alors. Jusqu'à Rousseau, au fond, on passe de l'état de l'enfance, infant, c'est-à-dire celui qui n'a pas la parole, hein, à l'état d'adulte. Et il n'y a pas du tout de reconnaissance et de définition d'un état d'adolescent. Et à partir de Rousseau, ça va évidemment se développer tant et plus jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on a même forgé la notion d'adolescent pour désigner les éternels adolescents, quel que soit leur âge. Voilà, Rousseau, on peut dire que c'est celui qui, notamment dans l'Émile, qui est son traité d'éducation, identifie cet âge de l'adolescence. Je fais cette parenthèse pour montrer la richesse et le foisonnement de la pensée de Rousseau. Donc, au départ, l'homme naturel, dans l'état du droit naturel, n'est pas un loup pour l'autre homme. Il décrit plutôt un état d'indifférence, d'ailleurs. Mais il postule par là que, du coup, l'homme peut être enclin au bien. En fait, la question du bien et du mal, pour Rousseau, va se poser dès que les hommes vont devoir s'organiser collectivement, en société, et que chaque homme dans la vie quotidienne est confronté à l'autre homme. C'est à partir de là que va se poser la question justement de la comparaison entre les hommes. On se compare. Et donc la question de la comparaison va amener la question morale, la question éthique. Parce que de là peut naître l'envie, la jalousie, qui sont des sentiments moraux, peut naître l'amitié, la bienveillance. Et, je cite le mot là, mais on va y revenir largement après, c'est le mot qui va nous préoccuper tout au long, la pitié, c'est le mot qu'utilise Rousseau. Mais pour ça, il faut que l'état dispersif ait cessé, que l'humanité passe à un état, en fait, historique et, je dirais, pré-social, où se pose la question de faire société. Alors, d'où vient son constat sombre? Et son constat révolté quant au fait qu'on est dans une société injuste, d'oppression, de domination des faibles par les forts, etc. Ben, ce que dit Rousseau, c'est que ce n'est pas l'état naturel qui crée ça. Ce n'est pas la nature humaine. Ce que dit Rousseau, c'est que c'est instauré historiquement une forme de société qui est viciée, dont les fondements sont basés sur l'injustice, la domination, etc. Donc, ce que dit Rousseau, c'est que ce n'est pas la nature de l'homme qui fait qu'on est dans l'injustice, l'oppression, etc. C'est la forme de la société qui s'est instaurée historiquement. Et donc, à partir de là, il faut créer, pense Rousseau, un autre modèle, repenser différemment la société. Alors, c'est notamment un de ses livres importants et dont on va voir un petit extrait, qui est Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est le titre complet qu'on résume généralement en disant discours sur l'inégalité. Et alors, de ce point de vue-là, est célèbre la fameuse affirmation de Rousseau, celui qui a dit ceci est à moi est un voleur. C'est-à-dire que pour Rousseau, au départ, la propriété n'existe pas. L'homme premier n'est pas dans un rapport d'appropriation au monde, c'est-à-dire aussi bien aux choses qu'aux autres hommes. Et c'est quand va s'instaurer un rapport d'appropriation que va débuter le processus de perversion de l'être ensemble. Donc, résumé dans cette fameuse phrase très célèbre que j'ai dit, que je répète, le premier qui a dit ceci est à moi est un voleur. Je n'ai pas le temps de le développer, mais on pourrait montrer que chez Rousseau comme chez Hobbes, la pensée est complètement nourrie en arrière-plan de la connaissance des livres bibliques, de la Bible. Je l'avais dit, le Léviathan, c'est un monstre biblique. Et de même, Rousseau est pétri de Bible. Il a eu une formation religieuse protestante, calviniste, très fort. Hein. Vous savez que c'est un Genevois. Et puis après, il s'était converti au catholicisme pour ensuite revenir au protestantisme. Et Rousseau, donc, connaît parfaitement la Bible. Et il connaît aussi, alors je ne peux pas revenir sur ce nom qu'on a abordé dans un premier temps cette année, il connaît très bien la pensée d'Augustin. Comme Hobbes connaît bien la pensée d'Augustin. Et je le soulignerai plus tard, chez Rousseau, on peut voir des traces très claires de la pensée d'Augustin. En particulier, cette histoire qui est un passage d'un état où l'homme n'est pas dans une logique d'appropriation, va passer ensuite dans une logique d'appropriation, et c'est le début de ses malheurs, en gros, et ben on peut lire cela comme une interprétation originale de la Genèse, ce premier livre de la Bible, et la chute du jardin. du jardin d'Éden. À ceci près, ça, je le dis tout de suite, c'est que Rousseau, contrairement à Augustin évidemment, et contrairement à Hobbes évidemment, n'intègre pas de la leçon biblique la notion de péché originel. Il l'évacue, c'est une notion qu'il refuse. Ce qui explique, par exemple, qu'il ne veut pas considérer que naturellement, du fait du péché originel par exemple, l'homme serait gouverné par le mal. L'homme serait un loup pour l'homme. Ça, justement, il refuse complètement cette perspective, cette orientation. Donc il ne retient pas ça de ses lectures bibliques, en tout cas de ses lectures bibliques à travers un filtre chrétien. Mais par contre, il médite beaucoup sur la Genèse et la chute d'Éden, du jardin. Donc, son constat que le mal est au cœur de la société, il a une phrase très forte dans un de ses textes qui est les objections à son discours sur les sciences et les arts. Il dit « J'ai vu le mal, j'ai vu le mal, et tâché d'en trouver les causes. » Alors, le mal qu'il voit, c'est le constat qu'il fait par son expérience quotidienne, que les riches dominent les pauvres, que les forts dominent les faibles, et non seulement les dominent, mais les oppriment. Rousseau, c'était un observateur, il avait une dimension de sociologue très prononcée. D'ailleurs, je rappelle que Durkheim, le fondateur de la sociologie française, écrit son livre fondateur de la sociologie, qui était sa thèse de doctorat, sur Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie. Et il est vrai que Rousseau est un observateur. Il observait les mœurs de ses contemporains au quotidien. C'était quelqu'un qui aimait regarder les scènes entre les enfants, les scènes dans les villages, la vie quotidienne des artisans, des paysans. Rousseau n'était pas enfermé dans une tour d'ivoire. C'est ça sa grandeur aussi à Rousseau. C'était pas quelqu'un, contrairement à Voltaire au fond, j'y reviendrai justement sur Voltaire, qui détestait Rousseau, qui était au fond enfermé dans le salon. Rousseau, pas du tout. Donc j'ai vu le mal, voilà, c'est ça, c'est son point de départ, son acte de départ, et il essaie de comprendre d'où ça vient, pour pouvoir, à partir de là, tenter de proposer une autre perspective anthropologique et de philosophie morale et politique. Et donc, schématiquement, la cause majeure qu'il met en œuvre, enfin qu'il propose, c'est le premier qui a dit « ceci est à moi », c'est le désir de l'appropriation du monde par l'individu humain, qui va effectivement, à partir de là, créer des inégalités et des rapports de domination. Alors, il a des phrases, je vous lis ça au passage, parce que ce n'est pas dans les textes que j'ai voulu qu'on partage, des affirmations très fortes du type « Tous les avantages de la société ne sont-ils pas pour les puissants et les riches ?» Ou encore « Le tableau du pauvre est différent. Plus l'humanité lui doit, plus la société lui refuse. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, au départ, se crée cette appropriation inégalitaire. Et ensuite, et c'est en ce sens-là qu'il récuse le contrat de Hobbes, c'est qu'il dit « Les lois et les institutions qui ont été instaurées et qui organisent la société de façon contractuelle sont viciées et ne permettent pas une coexistence harmonieuse parce qu'au fond, il n'y a pas de vrai contrat à l'origine. C'est la volonté des puissants qui, sous couvert de contrat, ont imposé leur domination. » Donc, le contrat est à repenser autrement. Le contrat tel qu'il s'instaure, ben avec Hobbes, pour Rousseau, c'est un leurre, c'est un voile. Au fond, de ce point de vue-là, Rousseau n'est pas si loin, et d'ailleurs, ça sera un grand lecteur de Rousseau, de la première pensée de Marx, d'une certaine manière. Les lois sont, dès l'origine, une usurpation du riche, tout à son profit. Ça, c'est dans le discours sur l'inégalité. Il considère que les contrats sociaux qui structurent la société et l'être ensemble sont des contrats léonins. Alors, léonin, c'est un terme du droit, un terme juridique, et qui est intéressant et qui donne d'une certaine manière raison à Rousseau, c'est-à-dire que le droit considère, aujourd'hui, c'est le droit actuel, que des clauses léonines, un contrat léonin ou une clause léonine dans un contrat, léonien, ça vient de Lyon, c'est des clauses abusives. Des clauses abusives qui instaurent une relation inégalitaire entre celui qui a imposé cette clause ou ce contrat et celui qui l'a subi. Par exemple, on peut considérer bien souvent que les contrats d'assurance peuvent être des contrats léonins, qui sont des clauses qui excluent en gros tous les risques pour le bénéficiaire. Alors, le problème, c'est qu'en droit actuel et en droit positif, c'est par exemple le droit nourri de la jurisprudence, le droit qui se fait tous les jours à travers l'exercice de la justice, le droit léonin est considéré comme nul, ce qui est intéressant. Il est nul, c'est-à-dire qu'un contrat qui est dénoncé comme léonin est un contrat qui est annulé, théoriquement. Le problème, c'est que dans les faits, c'est très difficile de le faire. Juridiquement, c'est possible. Et de fait, dans la jurisprudence, ça existe. Ça existe régulièrement. Il y a des gens qui peuvent faire annuler un contrat à cause du fait de son caractère léonin. Donc là, on est bien dans une filiation rousseauiste. Mais on ne l'est pas totalement. Mais où ça donne raison au constat de Rousseau, c'est que très souvent, des contrats devraient être annulés comme léonin. Ils ne le sont pas. Parce qu'il reste la marque de la domination du puissant sur le faible. Et c'est vrai qu'un des enjeux de la justice, je parle de ça parce que c'est d'actualité immédiate, là, pour avoir raison dans un contrat, faire valoir ses droits par la justice, il faut mieux être riche et puissant. La société avait instauré un système qui est l'aide juridictionnelle pour que tous puissent avoir une égalité devant la justice pour faire valoir ses droits. Et vous savez, l'actualité actuelle, c'est que les avocats font grève parce que l'aide juridictionnelle, le budget global n'a pas augmenté. J'entendais ça en 2007 et que du coup, ça ne permet pas à tout le monde de bénéficier d'un avocat. Or, j'entendais ça, apparemment, le nombre de personnes depuis 2007 qui ont droit à l'aide juridictionnelle parce que leur revenu est trop faible a doublé. Et du coup, il y a une impasse. Donc, les avocats sont coincés parce qu'ils veulent bien servir leur éthique de défendre tout le monde, mais ils ne veulent pas être bénévoles pour la chose. Il y a une impasse actuelle à ce sujet. Cet épisode de l'actualité a à voir avec ce dont on discute là, directement en lien avec tout ça. Alors, voilà en gros le constat qu'établit Rousseau et la cause majeure qu'il discerne de son analyse du constat. Donc, à partir de là, Rousseau quitte complètement toute explication de type religieux. Il s'éloigne de toute théodicée, ce qui était la pensée dominante jusqu'alors. La théodicée, c'est un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui et pour cause, c'est une théorie philosophico-théologique qui considère que le monde est organisé selon la justice divine. Théodicée, ça veut dire ça en grec. Théo, c'est théos, Dieu, et diké, c'est précisément la justice. Donc Rousseau s'éloigne de toute théodicée et considère que le mal et le malheur qui arrive aux hommes ne renvoie pas à Dieu, malin, méchant, mais est produit par les hommes eux-mêmes, et s'est constitué par l'histoire des hommes eux-mêmes. Donc les seuls responsables du mal dans la société, ce sont les hommes eux-mêmes. Ce n'est ni la faute d'un Dieu, ni l'effet d'un péché originel. Et je reviens à Voltaire, qui est très intéressant, qui a déterminé le fait que Voltaire n'aura cessé à partir de là de railler, de se fiche et d'enfausser Rousseau publiquement. Il y a eu le fameux épisode du tremblement de terre de Lisbonne, dont Rousseau et Voltaire sont les contemporains. Ce tremblement de terre est la première catastrophe naturelle, entre guillemets, qui va faire l'objet, comme on dit aujourd'hui, d'un buzz de la société européenne. C'est-à-dire que c'est la première fois que toute une société participe du drame qu'est une catastrophe naturelle. Aujourd'hui, c'est courant. Pensez les tsunamis, enfin tout, depuis Rousseau et Voltaire, c'est courant. La société communie, entre guillemets, autour de catastrophes. Le tremblement de terre de Lisbonne, qui fait, je crois, 50 000 morts, c'est le premier fait, le premier malheur médiatisé. Et donc, ça agite effectivement toute la société, et notamment tous les philosophes, les penseurs, etc. Comment le comprendre? Comment comprendre qu'un fait de ce type puisse intervenir dans l'histoire humaine et frapper autant les hommes? La position de Voltaire, elle est claire et nette, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Ou que le Dieu, il ne mérite pas respect et attention parce que c'est un salopard. Donc en gros, pour Voltaire, l'origine est divine. C'est son paradoxe d'ailleurs. Alors c'est ce qu'il dit. Si Dieu permet ça, alors c'est vraiment que ça ne vaut pas la peine. Et Rousseau dit tout à fait autre chose. Dans une lettre à Voltaire, il dit « Ne vous en prenez pas à Dieu, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Il faut vous en prendre aux hommes. » Alors c'est presque une pensée écologique. Il dit « Si ce tremblement de terre a fait autant de morts, c'est que les hommes ont commis l'erreur de construire une ville avec une densité urbaine, déjà à l'époque, un endroit dangereux et une concentration urbaine forte. Donc il faut s'en prendre aux hommes. » Le drame, la catastrophe du tremblement de terre de Lisbonne est la faute des hommes. Dieu, le péché originel, la providence n'a rien à faire avec ça. Autant dire que ça n'a pas du tout plu à Voltaire. Et que jusqu'au bout, Voltaire en voudra un mort à Rousseau. D'ailleurs, dans Les Rêveries, qui est le dernier texte de Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, on l'avait vu, Rousseau, alors je ne sais plus laquelle des promenades, il évoque le fait d'un accident qu'il a eu à Ménilmontant qui a failli lui coûter la vie. C'est un chien qui a été lâché manifestement intentionnellement sur lui, un molosse, quoi, qui l'a renversé et s'est retrouvé à l'hôpital. Et Rousseau a toujours pensé que c'était effectivement intentionnel, quoi. Alors elle est devenue un peu parano, de fait, on le deviendrait sans doute à moins. Et je pense qu'il n'était pas loin de penser que c'était tous ceux qui lui voulaient du mal et que Voltaire n'était pas forcément étranger, pas l'auteur direct, mais que, n'était pas étranger à la chose en ayant entretenu un climat un peu de lâchage médiatique. J'utilise volontairement des termes anachroniques, mais parce qu'au fond, c'est le début de cela. Rousseau, Voltaire, c'est les premiers personnages publics. Aujourd'hui, la notion de personnage public est tellement courante, mais ça n'existait pas avant. Voilà, donc la réponse de Rousseau à Voltaire est très intéressante, quoi. Elle est très profonde. Il ne s'agit pas de s'en prendre à un dieu, à un péché originel, à une providence s'il y a des catastrophes. Si le mal frappe la société, il faut chercher les causes parmi les hommes et les pratiques humaines. Et là, en l'occurrence, c'est un urbanisme sauvage, un urbanisme irrationnel, injustifié. Alors maintenant, on a intégré largement cette pensée-là. Quand il y a des catastrophes d'inondation, par exemple, depuis Vaison-la-Romaine, aujourd'hui, on admet l'explication de Rousseau. On s'en réfère plus à un dieu quelconque, à un péché originel quelconque. On dit il y a une erreur humaine. On a construit là où il ne fallait pas. On est dans la lignée rousseauiste. Elle a eu gain de cause contre Voltaire. D'ailleurs, quand on va à Lisbonne, on s'en rend compte aujourd'hui. C'est une ville ancienne qui a été construite sur une zone instable, en plus au bord du Tage, qui est quasiment une mer, là. Et on voit encore une trace du tremblement de terre, qui est qu'une des tours, qui ne s'est pas effondrée, existe toujours, mais elle a été déplacée, elle est au milieu du Tage. Elle est dans l'eau. Elle a été déplacée de, je sais plus, 50 mètres, à peu près, dans l'eau. Et puis ça part d'un raisonnement de bon sens. C'est vrai que Rousseau a toujours été pour ce qui est devenu après un slogan contemporain américain qui est « Small is beautiful », c'est-à-dire qu'il pensait que la concentration humaine, c'était néfaste. Il était pour des petites unités, en fait. Il pensait que les grosses unités urbaines ne permettaient pas une cohabitation harmonieuse. C'est pour ça qu'il s'est intéressé à imaginer des constitutions de petites sociétés. Par exemple, la Corse. Il a écrit un livre qui est « La constitution de la Corse », pour une constitution de la Corse. Il a fait de même pour la Pologne. Et ce qu'ajoute Rousseau par rapport au tremblement de terre de Lisbonne et plus largement dans son discours sur l'inégalité, c'est qu'au fond, ces contrats léonins se sont formalisés à travers le fait que l'argent soit devenu le vecteur du lien social. Et Rousseau a une charge, du coup, à partir de là, très forte contre l'argent, au sens où l'argent, c'est ce qui cristallise ces rapports de domination. Ce qui est aussi très contemporain, parce que là aussi, quand il y a une catastrophe aujourd'hui, assez couramment est mise en avant une explication liée au fait qu'il y a eu des intérêts financiers qui ont induit l'état des choses et l'ampleur de la catastrophe. Voilà le constat de départ chez Rousseau. L'homme n'est pas mauvais au départ, l'homme naturel peut être orienté vers le bien. Quand s'instaure un état pré-social, du coup, apparaissent les catégories de la morale, de la justice, etc. Et ce qui va être la rupture négative, c'est l'inégalité qui va s'instaurer dans les rapports humains entre les puissants, les riches et les pauvres, les faibles. Voilà. Alors, avançons. À partir de là, Rousseau, dans son anthropologie, qui consiste à creuser ces mécanismes du mal, des inégalités, va établir, et ça c'est la grande nouveauté, qu'il y a chez l'homme naturel deux principes qui le gouvernent. Deux principes premiers, ontologiques, c'est-à-dire consubstantiels de l'être humain, qui le gouvernent. Ce qu'il appelle au fond des instincts, parce qu'il les situe comme antérieurs à toute élaboration intellectuelle, toute élaboration de la conscience réflexive de l'homme, antérieure aussi à tout développement de sentiments. C'est premier, c'est vraiment l'instinct premier. Alors, ce premier instinct, il le nomme l'amour de soi, l'instinct de soi. Et là, on va retrouver Hobbes. Hobbes qui dit, souvenez-vous, le contrat ne peut fonctionner que sur un intérêt commun aux hommes. Et l'intérêt commun aux hommes, c'est au fond ce qui est l'amour de soi, c'est l'instinct de conservation. C'est-à-dire que l'homme, dans son amour de lui-même, ne peut pas souhaiter sa perte. L'amour de soi conduit l'homme à vouloir persévérer dans son être propre. Donc l'homme, je ne reviens pas là-dessus dans le détail parce qu'on l'a largement vu à propos de Hobbes. L'homme a le désir d'être immortel, d'échapper à la mort, en tout cas le plus longtemps possible, de persévérer dans son être. C'est fondamentalement le sens premier du mot intérêt, intéressé. L'homme est intéressé. Intérêt, ben c'est Emmanuel Lévinas qui a bien éclairé ce mot à travers une étymologie assez simple. Intéressé, ça vient de deux mots latins à coller, inter, qui est une préposition qui veut dire entre. Le mot le plus immédiat en français, c'est entre, c'est-à-dire parmi. C'est une préposition qui signifie la participation de à. C'est-à-dire inter, c'est entre, parmi, participer de. Esse, c'est tout simplement esse en latin, E2SE, c'est l'infinitif du verbe être. Donc inter esse, c'est le fait de participer de l'être, d'en être. Il faut en être. Et l'obsession de l'individu, c'est d'en être, alors dans toutes les nuances du terme, y compris contemporain, il faut en être sous peine de ne pas exister. Et tous les moyens, potentiellement, sont bons pour en être. Et les moyens, c'est le fait d'obéir à sa puissance d'être. Alors, Rousseau identifie parfaitement cet instinct premier. Il ne le condamne pas, qu'il n'y ait pas de méprise. Au contraire, il dit qu'il est indispensable, nécessaire et positif. Il pressent en même temps les impasses que ce seul instinct peut produire, les impasses dans la construction d'un être ensemble harmonieux. C'est que ceci amène à ce que chaque individu soit régi par un désir de puissance illimitée. Et le désir de puissance illimitée crée à un moment donné une incompatibilité dans l'être ensemble, soit toi, soit moi. Donc Hobbes résoudra ce problème qu'il a identifié pareillement. En disant qu'il faut un contrat qui volontairement permet que les hommes s'autolimitent, parce qu'ils ont intérêt à s'autolimiter, l'intérêt qui est qu'ils veulent survivre et ne pas être tués par la puissance de l'autre. Rousseau complexifie et déplace de façon très intéressante le problème. La difficulté, c'est qu'il ne va pas aller au bout. Et il va abandonner ça, par exemple, très clairement dans le contrat social, mais ça vaut la peine d'explorer sa perspective. Donc Rousseau considère qu'il y a un second instinct qui est ce qu'on peut appeler, ce qu'il appelle, l'instinct de pitié, la pitié. Et c'est probablement pour cela qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire de fonder un modèle de société basé sur la pitié. Il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il est pris dans une contradiction théorique complexe. Et on va observer ça à travers quelques textes. Pour Rousseau, la pitié est à la fois un instinct, c'est-à-dire quelque chose qui est naturel, qui est premier chez l'homme, comme l'instinct de soi, comme l'instinct de conservation. Mais en même temps, il considère la dimension nécessairement, comment dire, cérébrale, intellectuelle du développement de la pitié. Ce qui est contradictoire, c'est-à-dire qu'en gros, si c'est un instinct premier, ben voilà, c'est là. L'homme est mu par cet instinct comme il est mu par l'instinct de conservation. Mais en même temps, Rousseau dit ça et il dit aussi la pitié n'existe que si elle se développe à travers une élaboration de conscience. Et par exemple, dans l'Émile, il montre clairement que l'éducation de l'enfant et de l'adolescent joue un rôle déterminant dans l'existence de la pitié chez l'homme. Comme je l'ai dit, il observe beaucoup les scènes d'enfants, mais en même temps, il dit des choses contradictoires. Il dit que d'un côté, que les enfants, quand on les voit, ils ont de l'élan vers l'autre. Je crois qu'il est pris constamment dans un double constat et une double définition de ce qu'est la pitié. On pourrait consacrer une année sur la notion de conscience, mais là, dans l'immédiat, il faut s'accorder sur les termes, les notions, parce que ça peut avoir des acceptions différentes selon la perspective théorique dans laquelle on est. Chez Rousseau, ce qui est clair, c'est que la conscience n'arrive. Il le dit clairement dans notamment ce livre, L'essai sur l'origine des langues. Il dit, l'homme initialement est isolé, vit dans son coin, et du coup, il a un rapport, comme un animal, immédiat au monde, et il n'a pas de langage. La langue n'existe pas. Il faut deux conditions pour cela. Il faut que les hommes se regroupent et soient obligés d'établir des échanges qui supposent autre chose qu'une communication purement animale. Donc, il montre comment va naître la langue à partir de là. Et la conscience, dans l'acception de Rousseau, suppose la langue, suppose les mots. Donc, à partir de là, la conscience est inévitablement, pour Rousseau, mais ce n'est pas que Rousseau, là, le résultat d'une élaboration qu'on pourrait dire culturelle. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas inné. La grande nouveauté de Rousseau, et qui est une rupture avec toute la philosophie empreinte d'Augustin, c'est que le mal n'est pas une fatalité. Alors que, souvenez-vous d'Augustin, par exemple, très clairement, pour lui, à cause du péché originel, le mal est inévitablement au fondement de la société humaine. La grande rupture de Rousseau, c'est qu'il ouvre une perspective. C'est pour ça qu'il faut le prendre autant d'un point de vue méthodologique que d'un point de vue strictement anthropologique. C'est-à-dire que la pitié pour laquelle il a beaucoup d'hésitation quant à ce que c'est, et à l'origine, inscrite dans la nature humaine ou au contraire liée à l'éducation, liée à l'élaboration d'une conscience, etc. Bien que Rousseau oscille en permanence entre ces deux pôles, d'ailleurs, c'est pas inintéressant d'imaginer qu'on peut peut-être les articuler, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, malgré ces hésitations qui fragilisent, c'est un peu ce que dit Starobinsky dans son Rousseau, c'est-à-dire en gros, ça fragilise la pensée de Rousseau. Malgré cela, ce qui me paraît essentiel à retenir, c'est l'idée que le mal n'est pas fatalement au fondement de la société, de l'être ensemble des hommes, qu'on peut aussi penser qu'il y ait un fondement qui est au contraire positif ou orienté vers le bien, qui est la pitié. Je crois que c'est ça qu'il faut avant tout retenir dans la perspective de Rousseau, même s'il ne va pas jusqu'au bout, même s'il cafouille un peu, c'est s'accrocher à cela, c'est que le mal n'est pas une fatalité. Alors, j'ajoute un mot, mais on va passer au texte, parce qu'un mot quand même pour éclairer après les textes. C'est quoi la pitié chez Rousseau ? La pitié, c'est une émotion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il éclaire l'émotion à partir de son sens premier étymologique. Émotion, émouvoir, locomotion, hein, c'est motion. Mouvoir, c'est le mouvement, c'est le transport, le mouvement, le déplacement. Et c'est le préfixe latin ex, ce qui veut dire en dehors de, sortir de, le mouvement de sortie de. L'émotion, c'est ce qui fait sortir de soi. C'est le transport. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise en français, qui est tout à fait correct. Un des sens du mot transport, c'est justement le mouvement d'émotion, le transport amoureux, par exemple. Donc, l'émotion, pour Rousseau, c'est précisément ce qui fait sortir de soi, et la pitié, c'est ça. Alors, sortir de soi pour aller vers l'autre, pour pouvoir se mettre à la place de l'autre. Donc, autrement dit, pour Rousseau, la pitié, c'est ce qui permet de se mettre à la place de l'autre. Parce qu'on est sorti de soi. Et j'ajouterais qu'une des impasses que l'on peut pointer contemporaine du modèle hobbesien, qui a créé cette société d'individus, c'est que probablement, alors prenez cela comme des métaphores et pas comme une analyse clinique, on est dans une société où l'individu est devenu autiste et probablement un problème avec l'émotion. On est probablement dans une société où l'homme et n'est plus capable d'éprouver l'émotion. Je tiens comme symptôme de cela l'engouement pour, par exemple, les sports de l'extrême. Les sports de l'extrême, au risque de sa vie, parfois, c'est rien d'autre qu'une quête désespérée d'un individu qui n'éprouve plus d'émotion pour aller le plus loin possible pour retrouver une forme d'émotion. Et c'est très flagrant que quand on interroge à la radio ou autre des gens qui s'adonnent à ces sports de l'extrême, tous mettent l'accent sur le fait que là, ils rééprouvent de l'émotion. Mais ce qui est sous-jacent à ça, c'est qu'autrement, ils n'ont plus d'émotion. C'est-à-dire l'individu contemporain qui est dans l'illimité de la puissance est un individu d'une certaine manière autiste, entre guillemets, qui n'est plus à même d'éprouver l'émotion, qui est enfermé dans sa coquille. C'est une expérience mystique. L'extase, ça veut dire précisément se tenir en dehors de sa position de départ. C'est sortir de sa position d'être pour se transporter dans un autre statut. C'est-à-dire, c'est se tenir. C'est une position dans l'être. Et donc, l'extase, c'est ce qui fait sortir de sa position d'être pour être transporté dans une autre position. Alors, ça peut être lié effectivement à l'expérience de la mort. C'est très précisément toutes les analyses de Georges Bataille qui vont dans ce sens. Mais c'est aussi le mot extase peut désigner l'expérience mystique en général. Et quand on lit, par exemple, les textes de mystiques chrétiens comme Thérèse d'Avila, entre autres, on voit bien que c'est de cet ordre-là. Voilà, donc la pitié est liée à l'émotion qui permet de se transporter à la place de l'autre. Pour cela, il est besoin d'un autre ingrédient humain, d'un autre vecteur, sans lequel, dit Rousseau, l'homme ne peut pas accéder véritablement à la pitié. Et c'est ce qu'il appelle l'imagination, la faculté imaginative. Et l'imagination n'est pas première, c'est une élaboration de la conscience. L'homme n'est pas spontanément ou naturellement imaginatif, pour Rousseau, très clairement. Et de fait, il y a besoin de l'imagination pour la pitié, parce que pour se mettre à la place de l'autre, il faut s'imaginer dans la peau de l'autre, disons, des choses comme ça. Donc c'est bien une fonction de l'imagination, un travail de l'imagination, de pouvoir s'imaginer, enfin se mettre à la place de l'autre, vu qu'on n'est pas l'autre. Donc c'est pas une expérience sensible. Se mettre à la place de l'autre n'est pas une expérience première sensible du rapport au monde. Ce transport n'est pas une expérience immédiate sensible. On peut soit éprouver de la tristesse, on peut soit éprouver de la joie, éprouver toute une série de sensations, la douleur, physique ou morale. Mais on n'éprouve pas spontanément la douleur de l'autre. Il faut qu'il y ait cette fonction de l'imagination. Donc c'est là que Rousseau est amené à quitter l'idée que la pitié c'est un instinct premier, pour dire non, la pitié c'est une élaboration grâce à la fonction imaginative. Mais alors c'est en ce sens-là que sa contradiction, elle ne condamne pas sa pensée, elle n'anéantit pas sa pensée, parce que ça crée une tension dynamique, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut bien, pour penser la pitié, imaginer qu'il y a au départ quelque chose qui n'est pas simplement l'instinct de soi. Pour Lévinas, l'ontologie, c'est-à-dire la question de l'être, n'est pas première. C'est-à-dire la question de l'instinct de soi n'est pas première. Pour Lévinas, ce qui est premier, c'est l'éthique. Donc, en transposant avec Rousseau, c'est la question de la pitié. C'est une décision. C'est une décision. Ce qui est premier, alors en langage de Rousseau, c'est pas l'instinct de soi, c'est la pitié. En langage lévinassien, ce qui est premier, c'est pas l'ontologie, c'est-à-dire l'être, c'est la question éthique. C'est-à-dire de l'existence face à l'autre. Et de ceci découle chez Lévinas que, au fond, le sujet individuel ne peut exister qu'à travers la responsabilité qu'il assume face à l'autre. Je ne veux pas le développer maintenant parce que ça nous entraîne ailleurs et dans des développements ultérieurs. Terminons quand même par les textes. Je vais procéder simplement à un balayage rapide de ces textes. Donc, nous allons commencer par un très rapide balayage du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. Quelques phrases que je souligne au passage qui approfondissent ce que nous avons abordé. La première phrase. Toute idée générale est purement intellectuelle. Pour peu que l'imagination s'en mêle, l'idée devient aussitôt particulière. Donc l'imagination permet de passer de l'universel, pensé comme général, au particulier. Pourquoi ? Parce que l'imagination n'est pas détachée du sentiment, de l'affect, de l'émotion. Précisément. Et l'émotion renvoie à une expérience sensible. Donc, on est dans le particulier. C'est pour ça qu'on peut déduire de Rousseau qu'une communauté humaine où la pitié est un fondement est une communauté inévitablement sensible, une communauté de sentiments. Ça rejoint, pour ceux qui étaient là l'an dernier, que je résume, ce que dit Aristote de la communauté, dont il dit qu'elle est fondée sur l'amitié. Et d'ailleurs, Rousseau montre que chez l'enfant, c'est l'amitié qui va venir en premier comme sentiment. Donc pour Aristote, l'amitié est un sentiment majeur qui constitue la communauté. Et chez Aristote, très clairement, l'amitié se définit nécessairement dans une dimension d'affect. Il y a une dimension affective, dit Aristote, dans l'amitié. Donc ça rejoint les analyses de Rousseau qui est qu'une communauté humaine fondée sur l'amitié est une communauté de sentiments, communauté d'affect, inévitablement. C'est pour ça que c'est chou, contrairement à l'être ensemble froid du contrat, qui est fondé sur aucun affect, aucun sentiment autre que l'instinct de survie. Je grappille quelques passages, toujours dans la première page du discours. C'est « En effet, il est impossible d'imaginer pourquoi dans cet état primitif, un homme aurait plutôt besoin d'un autre homme qu'un singe ou un loup de son semblable. » Donc, ce qui est intéressant là, simplement, c'est qu'il part bien de l'état dispersif premier des hommes, où les hommes n'ont pas besoin des autres hommes. C'est là qu'on voit un point de vue méthodologique et pas un point de vue de vérité anthropologique, ethnologique. C'est qu'il dit, On ne peut pas imaginer pourquoi. C'est-à-dire que c'est comme les astrophysiciens, au fond, qui aujourd'hui cherchent l'origine de l'univers en creusant le Big Bang. Au fond, à quoi ils aboutissent? Les astrophysiciens les plus conséquents aboutissent au fait qu'ils créent un mythe, ils créent un mythe scientifique. Mais on n'en sait pas plus. Et Rousseau le reconnaît. C'est pour ça qu'il ne faut pas se méprendre. Je l'avais déjà dit pour Hobbes, c'est pareil. On ne peut pas objecter à Rousseau, même s'il va prendre des exemples chez les Indiens et les Inuits, objecter à Rousseau que scientifiquement, l'observation ethnologique prouverait qu'il a tort. Parce que c'est une nécessité méthodologique pour lui. C'est-à-dire que pour avancer, il est obligé de partir de ses axiomes. C'est comme les mathématiques. Les mathématiques n'existent pas si au départ on ne pose pas un certain nombre d'axiomes. L'intellect humain est bien obligé pour construire des raisonnements, des analyses, une conscience au sens petit c, est bien obligé de partir de quelques postulats ou axiomes. Et il n'y aurait pas de mathématiques si au départ on n'avait pas posé quelques axiomes qui par définition c'est quoi? C'est indémontrable. C'est une décision première. Une décision. Il faut décider au départ et à partir de là, on peut construire. Alors, on dira, ça invalide tout. Non, ça n'invalide pas. Parce que ce qui est intéressant, la seule épreuve de l'intérêt, de pertinence, c'est quoi? C'est pas de savoir si c'est vrai au départ. La seule épreuve de la pertinence, c'est de savoir si c'est productif ou créatif. Si ça produit, si ça crée des éclairages utiles du point de vue de la vie humaine, des réponses possibles utiles pour la vie humaine. C'est ça le seul critère. On ne se sortira jamais de toutes ces approches si on considère que le seul critère de pertinence, c'est qu'il faut prouver que c'est vrai au départ. Cette question est nulle et non avenue, et c'est l'illusion scientiste que les meilleurs des scientifiques reconnaissent aujourd'hui. On ne peut pas prouver si c'est vrai au départ, c'est-à-dire si le point de départ est vrai. Ce sont nécessairement des axiomes, des postulats. Et la science n'échappe pas à ça, si on veut bien admettre que la physique, les sciences de la matière, ce qu'on appelle les sciences dures, ont besoin des mathématiques pour se construire. Or, les mathématiques ont besoin d'axiomes pour se développer. Les épistémologues montrent combien, dans la science, l'intuition est indispensable. Une phrase au passage, ça résume ce que j'ai déjà dit. Il paraît d'abord que les hommes dans cet état, donc primitif, naturel plutôt, n'ayant entre eux aucune sorte de relation morale ni de devoir connu, ne pouvaient être ni bons ni méchants et n'avaient ni vice ni vertu. Vous voyez qu'on est très loin de la vision simpliste de Rousseau et du mythe du bon sauvage. Un peu plus bas, je souligne là un exemple de la rupture avec Hobbes, du changement de perspective. N'allons pas surtout conclure avec Hobbes que pour n'avoir aucune idée de la bonté, l'homme soit naturellement méchant, qu'il soit vicieux parce qu'il ne connaît pas la vertu. Donc là, c'est la ligne vraiment de partage. Là, il congédie Hobbes. Et ça, cet acte, ce geste, évidemment, détermine. Après, il s'appuie sur un autre grand penseur dont j'avais parlé il y a quelques années, qui est Mandeville, qui est un philosophe, qui a un nom français, mais qui est hollandais, qui est un peu l'inventeur de l'utilitarisme, de la philosophie de l'utilitarisme, et qui a pensé tout cela à travers un livre célèbre qui s'appelle « La fable des abeilles », où il compare l'organisation de la société humaine à une ruche. On y reviendra parce que c'est trop long, du coup, d'expliciter l'allusion de Rousseau à Mandeville présentement. Ensuite, quelques balayages rapides de l'essai sur l'origine des langues. Donc vous voyez que ces deux livres, qui sont d'ailleurs chronologiquement premiers chez Rousseau, le discours sur l'origine de l'inégalité et l'essai sur l'origine des langues, comme le nom l'indique, c'est les livres qui vont poser le constat de départ, le constat méthodologique de départ, les axiomes de départ. Et après, les développements ultérieurs renvoie au livre ultérieur et deux qui sont parallèles et quasiment concomitants dans leur parution, c'est l'Émile par rapport au problème de l'éducation et de la construction de la conscience humaine et de la construction d'une conscience morale. Et puis c'est le contrat social du point de vue des déductions qu'il peut tirer pour la construction d'une société pacifique. Donc là, on en reste sur les constats de départ et c'est sur l'origine des langues qui est un texte remarquable qui inspire encore aujourd'hui du point de vue de la force de la pensée méthodologique des linguistes, par exemple. Donc, il part, là aussi, d'un temps pré-social, d'un temps premier. Dans les premiers temps, les hommes épars sur la face de la terre n'avaient de société que celle de la famille, de loi que celle de la nature, de langue que le geste et quelques sons inarticulés. Ils n'étaient liés par aucune idée de fraternité commune. Et n'ayant aucun arbitre que la force, ils se croyaient ennemis les uns des autres. C'était leur faiblesse et leur ignorance qui leur donnaient cette opinion. Ne connaissant rien, ils craignaient tout. Ils attaquaient pour se défendre. Un homme abandonné seul sur la face de la terre, à la merci du genre humain, devait être un animal féroce. Mais attention, encore une fois, ils n'en tirent pas que l'homme est mauvais naturellement. Ils montrent comment c'étaient les circonstances matérielles de la vie matérielle qui l'amenaient à devoir se défendre. Il était prêt à faire aux autres tout le mal qu'il craignait d'eux. La crainte et la faiblesse sont les sources de la cruauté. Les affections sociales, alors les affections sociales, il faut l'entendre comme le sentiment collectif, le sentiment d'une société, le sentiment pour l'autre, l'affect pour l'autre. Les affections sociales ne se développent en nous qu'avec nos lumières. Donc là, clairement, on va voir, la pitié est une construction et les lumières font entendre la raison. Donc la pitié est aussi une construction de la raison. On passe un cran supplémentaire quant à l'éloignement du statut de la pitié comme purement instinct naturel. Avec nos lumières, la pitié, alors cette phrase résume toute la problématique, la complexité, bien que naturelle au cœur de l'homme, bien que naturelle, il ne lâche pas le morceau, bien que naturelle au cœur de l'homme, resterait éternellement inactive sans l'imagination qui la met en jeu. Alors, il y a aussi Aristote qu'il faut comprendre et ça résout en partie la contradiction. Chez Aristote, il y a deux notions centrales, la puissance et l'acte. La puissance, c'est, comme on dirait aujourd'hui d'un terme qui est moins beau, mais qui parle peut-être plus rapidement, c'est le potentiel. C'est ce qu'on a comme virtualité, comme potentialité d'être. Mais la puissance, en ce sens-là, tant que ça reste à la puissance, comme on dirait aujourd'hui, c'est du virtuel. C'est un possible qui n'a pas lieu. Pour que ça s'inscrive dans le régime de l'être, que ça soit, il faut passer de la puissance à l'acte. On retrouve ça en physique. Mais la physique est aristotélicienne, profondément. Et les grandes notions de base de physique sont des notions inspirées d'Aristote. Donc l'acte, c'est ce qui va permettre la réalisation, c'est l'inscription dans l'être de ce qui n'était que la puissance. Et c'est ce que dit Rousseau, la pitié, il ne faut pas renoncer au fait que ça préexiste, mais ça préexiste comme puissance. Autrement dit, ça n'existe pas dans l'être. Et pour que ça passe à l'acte, c'est-à-dire que ça passe de la puissance à l'acte, donc pour que la puissance soit une réalité d'être, le vecteur du passage à l'acte, c'est l'imagination. La pitié qui est bien dans le cœur de l'homme resterait éternellement inactive sans l'imagination qui la met en jeu, qui la met en acte, en nous transportant hors de nous-mêmes, en nous identifiant avec l'être souffrant. J'ai sauté une phrase. Comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié? En nous transportant hors de nous-mêmes, en nous identifiant avec l'être souffrant. On peut compléter l'analyse sociologique de nos temps présents. Une caractéristique de l'individu contemporain, c'est l'indifférence. L'état d'indifférence généralisée, c'est précisément l'état antinomique avec le sentiment de pitié. Nous ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffre. Ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. Qu'on songe combien ce transport suppose de connaissances acquises. Juste rapidement, un petit commentaire sur toujours l'autre texte sur l'essai sur l'origine des langues. Le besoin mutuel unissant les hommes bien mieux que le sentiment n'aurait fait, la société, toujours première, ne se forma que par l'industrie. Le continuel danger de périr ne permettait pas de se borner à la langue du geste, et le premier mot ne fut pas chez eux « aimez-moi », mais « aidez-moi ». Pour Rousseau, quand même, l'instinct de conservation, l'instinct de soi, est effectivement présent. Il ne le nie pas comme une nécessité de la sociabilité. Et donc, la nécessité de la langue, c'est « aidez-moi à ma survie », et non pas « aimez-moi », c'est-à-dire la dimension affective de la pitié. Il est constamment sur les deux pieds, quoi. Il est dans un mouvement, et c'est ce qui rend complexe sa pensée, où il avance un pied, l'autre pied, voilà. Instinct de soi, pitié, instinct de soi, pitié. Le dernier texte, donc c'est un extrait beaucoup plus long et beaucoup plus déterminant de l'Émile, parce que c'est significatif, c'est dans l'Émile qu'on va trouver les développements les plus longs sur la pitié. Ce qui est la preuve que pour Rousseau, même si c'est un instinct au départ, la pitié passe de la puissance à l'acte qu'à travers toute une construction. Et cette construction va être permise par l'éducation. C'est pour ça que pour Rousseau, l'éducation est centrale. Ce qu'on va retrouver dans le contrat social, où Rousseau montre comment celui qui institue la société, le législateur qui institue le contrat social, doit être nécessairement aussi un instituteur. Il joue sur le mot. Enfin, c'est pas lui qui joue, c'est nous qui pouvons jouer, parce qu'à l'époque de Rousseau, c'était la même chose. L'instituteur, c'est celui qui institue la société, et l'instituteur, c'est celui qui éduque. Dans le contrat social, dit « la foule non instruite est mue par une volonté aveugle et peu errée ». Il faut que la foule devienne un peuple, en fait. Il faut que la foule soit instruite pour qu'elle oriente ses conduites de façon non aveugle. Et de ce point de vue-là, Rousseau est, on peut dire, à l'origine de ce que notre société européenne a créé de meilleur, mais qui est en train de s'étioler ô combien, l'éducation nationale, l'instruction publique. L'instruction publique comme nécessité consubstantielle à l'établissement d'une société harmonieuse. Et c'est Rousseau qui va inspirer ce mouvement de l'histoire de la République. Les républicains en France vont très vite travailler, une fois que la République est à peu près acquise, fragile, ô combien fragile, au XIXe siècle, vont éprouver la nécessité de créer, d'instaurer l'instruction publique. Et honnêtement, sincèrement, je pense que c'est la plus grande invention de la société européenne. C'est ce qui est le plus précieux et c'est ce qui est aujourd'hui le plus mis à mal. On pourrait dire plus largement, les lumières, la culture, l'art, la musique, l'art, les formes les plus élevées de la création de l'esprit humain n'ont pas empêché le nazisme parce que la société allemande était la société la plus cultivée, la plus éclairée. Incontestablement, on bute là sur quelque chose d'insoutenable, mais par rapport auquel on peut être rappelé à la modestie humaine, c'est-à-dire que l'homme n'existe pas, l'homme n'est qu'un nom. Et toute la question, c'est comment faire que le nom de l'homme soit l'humanité concrète, historique. Mais ça, c'est un boulot à quel il faut s'attacher, mais c'est un programme pour les siècles à venir. Peut-être qu'il faut faire avec ça, c'est-à-dire que ça appelle la longue patience et ça appelle la modestie, l'humilité et la longue patience. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réglé la question une fois pour toutes. L'homme reste fondamentalement une bête sauvage. Et une bête sauvage d'autant plus dangereuse que comme elle a acquis une rationalité, qu'elle est éduquée, elle peut transformer sa sauvagerie en des actes encore plus redoutables que la bête. Parce que l'homme, par la conscience, est pervers, alors qu'un animal n'est pas pervers. L'homme est pervers parce que la perversité suppose la pitié. C'est là où c'est redoutable. Et Rousseau, il l'a intuitionné, ça. Il l'a évoqué. Pourquoi ? Parce que la perversité suppose la capacité à se mettre à la place de l'autre. Parce que précisément, le pervers, c'est celui qui sait parfaitement comment fonctionne l'autre pour l'enfoncer. Donc, le pervers suppose la pitié. La perversité suppose la pitié.